écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron aux côtés des femmes. Le président s'est invité ce soir à Pessac en Gironde au débat organisé par sa secrétaire d'État Marlène Schiappa, interpellée exclusivement par des femmes donc, et certaines n'ont pas hésité à le bousculer un peu. On verra ça avec Stéphane Place qui est en direct de Pessac. Marine Le Pen, elle, était en campagne aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Les prix du tabac vont de nouveau augmenter à partir de demain, 50 à 60 centimes de hausse, objectif du gouvernement, 10 euros le paquet en 2020. La SNCF a perdu 890 millions d'euros à cause de la grève du printemps dernier. Pourtant, son patron, Guillaume Pepy, relativise, on l'entendra. Les plaidoiries de la défense au procès de Mehdi Nemmouche, ses avocats tentent de convaincre qu'il n'est pas l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Et puis le foot, bien sûr, France-Allemagne. Les filles sont sur le terrain ce soir en match amical, comme un avant-goût du mondial. C'est la mi-temps à Laval, Stéphane Beignet, et ce sont les Allemandes qui dominent.
Oui, effectivement, Isabelle, but de Léa Schuller à la 31e minute qui a bénéficié vraiment d'une mauvaise relance défensive de l'équipe de France de football. Mais Gaëtan Tiné a été à deux doigts d'égaliser dans le temps additionnel. Pour l'instant, ça va reprendre 1-0 pour l'Allemagne face à la France.
Et on vous retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal, Stéphane Beignet, en direct de Laval. La météo n'a plus rien à voir avec celle des 15 derniers jours. Place aux nuages sur une grande partie du pays demain, avec souvent de la pluie, de la neige même en montagne. Encore du soleil, mais du vent dans le sud-est. L'après-midi, les éclaircies reviendront par l'ouest avant une nouvelle offensive nuageuse sur la Bretagne. Les températures baissent encore, mais restent toujours printanières. Prévision complète d'Hélène Amorna à la fin de ce journal. Et puis, bien sûr, votre rendez-vous, comme tous les soirs, à 22h20, avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard.
Europe 1.
Emmanuel Macron s'est donc invité ce soir à Pessac en Gironde. On l'attendait demain à Bordeaux dans le cadre du grand débat national. Il est arrivé dès aujourd'hui. Le président s'est d'abord rendu dans le centre de formation d'une caisse d'allocation familiale avant de se joindre au débat organisé par sa secrétaire d'État Marlène Schiappa, où, comme à chaque fois, le président a été interrogé, interpellé et même un peu bousculé, comme en témoigne ce moment un peu tendu avec une gilet jaune.
Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous. Parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. J'ai envie que vous le soyez. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici. Et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. Regardez ce que l'on va faire.
Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français.
Oui.
J'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet
Alors,
jaune
moi, je
de ne
dis,
pas mettre un gilet jaune.
Moi, je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez, ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous deux dans le cœur.
Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau.
Non, mais
parce
je veux
que
vous le portiez quand même.
Mais je ne vais pas, je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le... Parce que je ne vais pas dire j'appartiens à un groupe. Et ça n'est
pas...
Ce
n'est pas une question d'appartenance.
Non, mais
c'est
ça
une
n'est
question
pas...
de faire un geste mais... pour dire je vais vous entendre, mais je vais vous écouter
mais
surtout.
Je l'ai fait ce geste.
Vous entendre, on vous voit.
Non, il y a
on
une réponse qui a été apportée le 10 décembre.
Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît.
Non, mais pardon, enfin...
Voilà, c'est pas ça.
Mais si, c'est une vraie réponse...
Voilà donc pour cet extrait de ce grand débat au féminin auquel vous assistez. Stéphane Place, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir
à tous. Vous êtes en direct de Pessac. Stéphane, alors il y a eu effectivement cet échange qu'on vient d'entendre ensemble, mais aussi beaucoup d'autres sur des sujets divers et variés.
Oui, effectivement, le débat et les échanges sont extrêmement riches et sur des sujets très différents. Emmanuel Macron est arrivé ici à peu près une heure après le début de cette discussion qui a été lancée par Marlène Schiappa et organisée par la députée de Gironde, Bérangère Couillard. Et ici sont réunies environ 250-300 femmes avec effectivement des questions sur les remboursements d'un certain nombre de consultations spécialisées, sur la prévention de certains cancers, sur l'accompagnement... des enfants, sur l'emploi dans la fonction publique également, et c'est son rôle à jouer dans les zones rurales, sur le remboursement des protections hygiéniques ou la prise en charge des protections hygiéniques pour les femmes qui vivent dans les rues et qui n'ont pas les moyens de se les payer, avec également des interventions un peu touchantes, c'est le moins que l'on puisse dire, d'enfants qui ont posé des questions et parlé au président de la République. Donc vous voyez, au-delà de ce que l'on a entendu il y a quelques instants avec cette gilet jaune venue du bassin d'Arcachon pour interpeller le président de la République, il y a effectivement une discussion qui est extrêmement large et le président de la République qui se prête volontiers à ce jeu de questions-réponses qui se prolonge d'ailleurs au moment où je vous parle, ici dans cette salle, dans ce complexe Belgrave à Pessac, les échanges se poursuivent.
Merci beaucoup. Donc Stéphane Place, en direct de Pessac en Gironde pour ce grand débat avec Emmanuel Macron. Le président de la République, cible principale de Marine Le Pen, en visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. La présidente du Rassemblement National, en campagne à moins de 3 mois du scrutin européen, elle a profité de ce rendez-vous politique obligé pour délivrer quelques messages et pour tacler son principal adversaire et sa politique agricole, quitte à grossir le trait.
On verse encore 1,5 milliard de plus à l'Union européenne cette année et parallèlement on nous dit on va baisser la PAC. Et pourquoi on va baisser la PAC? Pour pouvoir libérer de l'argent et notamment pour accueillir les migrants. Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter la folie. Donc moi je suis désolée, mais je considère que l'argent des Français doit aller plutôt aux paysans qu'aux migrants. Alors peut-être on me reprochera ce résumé. Mais pourtant, ce résumé, c'est une réalité.
Marine Le Pen, aujourd'hui au micro d'Adrien Beck au Salon de l'Agriculture, salon sur lequel Europe 1 sera encore très présent demain avec François Claus dès 9h, avec Raphaël Duchemin à la mi-journée, avec Mathieu Béliard à partir de 17h sur le stand de France Terre de Lait. Et puis notez que dès 5h demain, Eva Rock sera elle en direct du marché de Rungis qui célèbre ses 50 ans.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06 et demain nous serons le 1er mars et il y a des choses qui vont changer dans notre quotidien. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, tout dépend bien sûr où on se positionne. En tout cas, pour les fumeurs, Maud Descamps, c'est une mauvaise nouvelle qui se profile.
En effet, Isabelle, dès demain, le paquet de cigarettes vous coûtera entre 50 et 60 centimes de plus que d'habitude. Cette hausse, ce n'est pas une surprise, elle a été annoncée en mars 2018 et il y en aura d'autres, notamment en novembre prochain. Autre nouveauté à partir de demain, les conditions d'obtention de l'éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt qui encourage les travaux de rénovation énergétique. Les conditions d'obtention sont assouplies, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Également à partir de demain, du nouveau sur l'inégalité salariale. Les entreprises de plus de 1000 salariés vont devoir rendre public leur index d'inégalité salariale. C'est une note sur 100 que chaque entreprise doit calculer. Si la note est inférieure à 75 points, alors l'entreprise a 3 ans pour améliorer la situation. Sinon, elle sera condamnée à des sanctions financières. Et puis, autre changement demain, le brevet de sécurité routière. Vous savez, c'est cette formation qui vous permet d'apprendre à conduire un deux roues. Il faudra désormais suivre 8 heures de formation au lieu de 7 pour obtenir votre brevet. En revanche, aucun changement sur les tarifs de l'électricité puisque le gouvernement a gelé les tarifs jusqu'au printemps. Pour le gaz, une baisse est prévue, mais elle n'interviendra que le 1er avril prochain.
Les précisions de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Alors on vient de l'entendre, parmi les hausses qui entreront en vigueur demain, il y a donc celle qui concerne le prix des cigarettes. Le gouvernement a pour objectif, pour réduire la consommation des Français, un paquet à 10 euros l'an prochain. Gérard Vidal est le président de la Chambre syndicale des buralistes de Haute-Garonne. Il trouve très injuste que cette mesure de santé publique soit mise en œuvre en France, mais pas chez ses voisins.
Le paquet le plus vendu demain matin est à 8,80. Vous trouvez le même en Espagne qui vaut 5 euros et il vaut 3 euros en Andorre. Et je pense que le paquet de cigarettes vendu dans les pays voisins est aussi dangereux pour la santé que celui qui est vendu en France. C'est pas ça une politique de santé européenne. On est prêts, nous, à faire des missions de service public, mais il faut que les règles sur le tabac, qui est notre activité principale, soient les mêmes dans toute l'Europe. Aujourd'hui, on va trouver à chaque coin de rue des revendeurs de cigarettes. La contrebande explose. Donc aujourd'hui, si on veut faire une politique de santé européenne cohérente, il faut qu'il y ait moins d'un euro d'écart entre les pays.
Le président de la Chambre syndicale des buralistes de Haute-Garonne, il répondait à Benjamin Peter pour Europe 1. Les lourdes conséquences de la grève à la SNCF, c'était au printemps dernier, entre avril et juin, 41 journées de grève. La compagnie a fait les comptes, ce sont près de 900 millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses à cause de ce mouvement. Le bénéfice net l'an dernier a donc été divisé par 10, 141 millions contre 1,5 milliard en 2017. Malgré tout, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, relativise et a même des motifs de satisfaction, car si tôt la fin de cette grève, les trains se sont de nouveau remplis.
C'est vrai que la grève, qui a été la plus longue de l'histoire de la SNCF, 41 jours, a coûté très cher. Elle a coûté 880 millions d'euros, ce qui est une somme absolument énorme. Mais grâce à la dynamique du trafic, grâce aux nouveaux produits, par exemple Ouigo, est vraiment une façon pour tous les Français d'utiliser la grande vitesse. C'est grâce à ces produits-là, c'est-à-dire des produits pas chers, des produits qui vont partout, que la SNCF tire son épingle du jeu. Les voyageurs ont retrouvé le goût du train dès l'été. Moi, ce qui me frappe, c'est que les voyageurs du quotidien, les voyageurs qui utilisent les TER en région, ça augmente de presque 5% depuis l'automne.
Guillaume Pépier, le patron de la SNCF, au micro d'Olivier Samin. Une plainte déposée à l'ONU par 3 avocats contre la France au sujet des enfants de djihadistes, enfants détenus dans des camps en Syrie. Certains sont orphelins et ces avocats estiment que notre pays viole la Convention des droits de l'enfant. Ils réclament que ces mineurs soient rapidement rapatriés en France. La France, par ailleurs condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant d'un mineur afghan, un jeune garçon de 12 ans qui a passé plusieurs mois dans la jungle de Calais. C'était en 2016. Avant le démantèlement, la Cour estime que les conditions de vie étaient inappropriées au vu de l'âge de cet enfant. Condamnation symbolique pour François Guénoc, le vice-président de l'Auberge des migrants, mais néanmoins importante.
Alors, il faisait partie des très nombreux mineurs qu'il y avait dans la jungle de Calais, qui a été démantelée en octobre 2016. Pour ces mineurs, il n'y avait pas en particulier de scolarisation. On a déjà eu des victoires de ce type-là. La France a déjà été condamnée au niveau européen sur sa politique vis-à-vis des migrants. Il faut rappeler que le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné 6 fois par le tribunal administratif pour pratique illégale à la frontière italienne, notamment vis-à-vis des mineurs. Donc, oui, c'est important, ce type d'avis est important aussi vis-à-vis de l'opinion publique. Si on va en justice par la suite sur les mêmes problématiques, il est possible que ce type de condamnation puisse convaincre les juges qu'effectivement il y a matière à obliger l'État français à prendre ses responsabilités vis-à-vis des mineurs.
Le vice-président de l'Auberge des migrants, François Guénoc, avec Aude Vernuccio. Restez avec nous. Dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1 et les avocats de Mehdi Nemmouche qui tentent de convaincre qu'il n'est pas l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h12, merci d'écouter Europe 1. Les plaidoiries de la défense aujourd'hui au procès de Mehdi Nemmouche accusé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Isabelle Horry, vous suivez ce procès pour Europe 1. La défense avait promis des révélations, est-ce qu'elle a tenu ses promesses ?
Écoutez, toute la journée, on a eu l'impression d'être plongé dans un tout autre dossier, presque une autre réalité. Maître Courtois a remis en cause l'acte d'accusation. C'est du flan, lance-t-il sans cesse. Lui décrit un complot complexe. Il implique le Mossad, l'Iran, les services libanais. On s'y perd un peu. L'avocat cherche à semer le doute sur le profil des victimes, notamment le couple israélien abattu dans l'entrée du musée. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, avait expliqué le parquet. Pour la défense, il s'agit d'agents du Mossad, exécutés alors qu'ils étaient en mission. Se présenter comme un couple, c'est un classique depuis l'affaire du Rainbow Warrior et les faux époux Turange à Seine-Maître Courtois. Une allusion aux deux agents français qui avaient coulé le bateau de Greenpeace en 85. Qui est le tueur alors, si ce n'est pas Mehdi Nemmouche ? La défense n'apporte pas de preuves, mais elle évoque des hommes mystérieux dont l'un aurait occupé l'appartement du djihadiste la veille de l'attentat. Et Maître Courtois explique que l'accusé a été manipulé par les services secrets libanais et iraniens. Entre l'islamiste archi-radicalisé présenté par le parquet et le bouc émissaire décrit par la défense, c'est le grand écart. Les jurés vont devoir trancher, ils rendront leur verdict la semaine prochaine.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, qui suit pour Europe 1 ce procès de Mehdi Nemmouche. En Israël, le procureur général confirme son intention d'inculper Benjamin Netanyahou visé par une triple procédure. Le Premier ministre dénonce une chasse aux sorcières et un plan de ses adversaires pour renverser son gouvernement. Au Venezuela, le chef de l'opposition Juan Guaido, qui est au Brésil, voudrait bien rentrer à Caracas malgré les interdictions qu'il a reçues pour avoir ignoré une interdiction judiciaire de sortie du territoire. Au Sénégal, le président Macky Sall, réélu dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête du pays, d'après des résultats qui sont encore provisoires. Résultats rejetés par l'opposition qui toutefois n'introduira pas de recours. La dizaine de journalistes algériens interpellés ce matin par la police alors qu'ils participaient à un rassemblement pour protester contre la censure a finalement été libéré ce soir. Les académiciens valident le principe d'une féminisation des noms de métiers et de professions à une large majorité. L'Académie française souligne qu'il n'existe aucun obstacle de principe à la féminisation de ces noms et que celle-ci relève d'une évolution naturelle de notre langue constamment observée depuis le Moyen-Âge. C'était aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. En France, 3 millions de personnes en sont atteintes. 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Et l'un des problèmes auxquels se heurtent les familles, c'est la difficulté de poser un diagnostic. Ève Roger, vous avez rencontré les parents d'Adonis qui, depuis 12 ans, tentent de savoir de quoi souffre exactement leur fils.
Adonis va avoir 15 ans. La seule certitude aujourd'hui, c'est qu'il a une maladie génétique. Mais aucun médecin n'a pu mettre un nom dessus. Sophie Morel, sa maman.
On ne connaît pas le gène qui est responsable de la maladie d'Adonis. C'est plus difficile pour lui d'utiliser des couverts, de faire du vélo, de faire ses lacets. Il a aussi des troubles d'attention. Nous sommes en errance de diagnostic depuis 12 ans.
Jusqu'à l'âge de 3 ans, le pédiatre rassure les parents, il ne faut pas s'inquiéter. Adonis prend son temps, c'est tout. Mais c'est seulement plus tard qu'un neuropédiatre s'alarme et envoie l'enfant chez un généticien. En vain.
Ce généticien a mis tout en œuvre, différentes explorations génétiques. Et puis à chaque fois, tout était OK, tout était normal. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on nous a dit, écoutez, on va faire une petite pause parce que là, je ne peux pas vous proposer d'examen à visée génétique. Quand on est maman, ce n'est pas possible.
L'incertitude agit comme un poison. Adonis a-t-il une maladie héréditaire ? Existe-t-il un traitement ? Le temps presse. Il y a 4 ans, Sophie découvre à la télévision l'existence d'Arnold Munich, l'un des plus grands généticiens français. Rendez-vous est pris, mais la liste d'attente est longue. Les examens ont commencé il y a 6 mois. Réponse dans quelques semaines.
Le reportage d'Ève Roger. On est à 99 jours du coup d'envoi du mondial féminin de football. Ça se passera en France et ce soir justement l'équipe de France affronte l'Allemagne en match amical. Ça se passe à Laval et vous suivez ça pour Europe 1. Stéphane Beignet, c'est à guichet fermé et pour l'instant les Françaises sont dominées.
Oui, elles sont dominées et menées devant 10 238 spectateurs. Beaucoup d'ambiance ici au stade Francis Levasseur. L'Allemagne a ouvert le score en première période à la 31e minute, Léa Schuller, alors que la France maîtrisait cette rencontre. Il y a eu un très mauvais dégagement défensif. Ça a bénéficié vraiment à la joueuse d'Essen Schönbeck qui a frappé puissamment et poteau rentrant. La gardienne de l'équipe de France n'a rien pu faire. Alors là, l'équipe tricolore a essayé de se donner quelques solutions, notamment par Katoto et Gaëtan Tinet qui a été à deux doigts d'égaliser dans le temps additionnel avec une très belle frappe bien captée par la gardienne allemande. Et puis en seconde période, la France a eu une très belle occasion avec une frappe, mais malheureusement pour Marion Torrent, son tir et sa frappe n'a pas réussi à trouver le cadre alors que la gardienne allemande, elle était complètement battue. Donc pour l'instant 1-0, il faut dire que le bilan de Corinne Diacre est vraiment très bon depuis son arrivée il y a un an, parce que la formation tricolore en 17 rencontres a gagné 15 fois, un nul pour une seule défaite. Il reste un peu de temps pour intervertir et inverser la tendance et tout au moins égaliser à Laval. 1-0 pour l'Allemagne face à l'équipe tricolore.
Le foot féminin en direct sur Europe 1, on est très fiers. Merci beaucoup Stéphane Beignet, on vous retrouvera d'ici la fin de ce journal. Stéphane Beignet en direct de Laval, ville chère au cœur de Claire Lemaître, qu'on retrouve dans 2 minutes pour la bourse. D'abord, on jette un œil sur la météo avec vous, Elena Morna. Et demain, c'est le printemps pour les météorologues, mais pas pour nous.
Exactement, Isabelle. Ce 1er mars sera celui de la fin de notre parenthèse enchantée. Qu'est-ce que c'était bon ! Parenthèse déjà fermée sur le nord-ouest avec les premières averses. Alors, on les retrouvera avec une cohorte de nuages demain entre le nord-est et Rhône-Alpes et de la neige en montagne. C'est de bon augure. La neige de printemps qu'on avait en ce moment n'allait pas faire long feu. Après le passage des averses, retour des éclaircies, mais de façon provisoire, puisque revoilà une nouvelle perturbation sur la Bretagne demain après-midi. Sur le sud-ouest, éclaircies timides le matin, plus franches l'après-midi. Sur les Pyrénées et le sud-est, du soleil et du vent. Et les températures vont commencer à baisser, mais elles resteront printanières avec 10 degrés demain après-midi à Lille, 12 à Strasbourg et Dijon, 14 à Brest, Nantes, Caen, Paris et Clermont-Ferrand, 15 degrés pour Blois, Lyon et Angoulême, 16 à Toulouse, 17 à Bordeaux et Ajaccio, 18 pour Marseille et 21 à Nîmes. Nîmes qui a battu un record de douceur aujourd'hui avec 25 degrés. Alors un mot sur votre week-end. Pas terrible au nord avec 2 passages pluvieux. Le premier samedi, le second dimanche, quelques éclaircies entre les deux. Dimanche bien agité entre la Bretagne et les Ardennes avec beaucoup de vent.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
La course est lancée sous une pluie d'après-guerre.
Les pieds glissent des pédales. Ah là, c'est la chute du coureur est-allemand.
Il entraîne le peloton avec lui, mais Machinovski en profite et prend l'avantage. Quel aérodynamisme !
Le vélo avance, nous aussi. Découvrez la nouvelle formule Vélo Magazine. Tout ce qu'il y a à savoir sur le vélo pour 5,50€ et dans Vélo Magazine.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h20 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et encore une séance sans grande conviction à Wall Street.
Oui, avec des indices qui perdent du terrain. Le Dow Jones 7,027%, 25 916 points. Le Nasdaq recule de 0,29%, on est à 7 533 points. Les investisseurs sont partagés ce soir. D'un côté, on a de bonnes nouvelles pour l'économie américaine. L'an dernier, la croissance a bondi de 2,9%. C'est le chiffre annuel le plus élevé depuis 2015. Mais il y a aussi des déceptions sur le plan géopolitique avec Donald Trump et le président nord-coréen qui se sont séparés assez brutalement sans trouver d'accord sur le nucléaire. Ça pèse un petit peu sur les marchés ce soir. La chute du jour, elle est pour le titre HP, lourde chute de 19%. Pour le groupe informatique après ses comptes trimestriels. Dans le secteur technologique, on a aussi Apple qui perd 1%, Facebook moins 0,8%. Ça baisse aussi pour les banques, JP Morgan lâche 0,8%, Goldman Sachs moins 0,7%. Le pétrole poursuit sa hausse avec un gain de 0,5%. Le baril WTI coûte 57,22$ et puis l'euro est quasi stable, 1,1378$.
Et le marché parisien, Claire, se reprend ce soir.
Oui, après une courte pause hier, le CAC 40 remonte. Petite hausse de 0,29%, 5241 points. La plus forte progression de l'indice est pour Vivendi, plus 5,4%. Le groupe cherche à ouvrir le capital de sa filiale Universal Music. Le fonds américain KKR et le chinois Tencent seraient sur les rangs pour racheter près de la moitié du capital du leader mondial de la musique. Encore beaucoup de publications de résultats. Aujourd'hui, Altran bondit de 7,5%, des résultats de très bonne facture pour le groupe. Ça monte aussi pour Carrefour. Le PDG sera d'ailleurs notre invité dans
quelques minutes.
Dans quelques minutes. L'activité reste compliquée en France, mais les résultats de la filiale brésilienne compensent. Donc Carrefour monte de 2,5%. Et puis on a des résultats applaudis aussi pour SEB, pour Ipsos ou pour Dassault Aviation.
Et le titre Air France KLM, lui, a encore baissé aujourd'hui.
Oui, c'est la gueule de bois pour Air France KLM, toujours sonné par la montée surprise de l'État néerlandais au capital. Le titre perd encore 3,4% ce soir. C'est compliqué aussi pour Engie qui perd 4,7% après les prévisions de moyen terme dévoilées ce matin. Prévisions jugées décevantes par plusieurs analystes. Les indices européens sont partagés ce soir. Francfort gagne 0,2%, mais Londres perd 0,4%. Bruxelles plus 0,2%, Madrid plus 0,7%, Milan plus 0,8%, plus 0,1% pour la bourse d'Amsterdam et le CAC reprend 0,3%. On est à 5241 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h23 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le PDG du groupe Carrefour.
Bonsoir Alexandre Bompard, un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je précise que cette interview a été enregistrée ce matin à l'issue de la présentation de vos résultats aux journalistes et à la communauté financière. Des résultats qui permettent de dire quand même que Carrefour redresse un petit peu la barre. Vous avez gagné l'an dernier 802 millions d'euros. Justement, première question Alexandre Bompard. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces résultats ?
On a publié ce matin des résultats qui sont solides, encourageants, avec une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du résultat opérationnel. On devance un peu les objectifs qu'on s'était fixés. C'est le résultat de la formidable transformation qu'on entreprend depuis un an, avec un objectif, répondre aux attentes des clients, le prix bas, les services, la qualité alimentaire. C'est une première année d'un plan de 5 ans, mais c'est un très bel encouragement pour toutes les équipes à poursuivre cette très grande transformation que nous sommes en train de mener chez Carrefour.
Ce qui va changer pour nous, le consommateur, c'est que vous annoncez une accélération de votre plan de transformation pour les hypermarchés. Ils vont être moins grands et surtout, il va y avoir moins de références à l'intérieur. Par exemple, la bijouterie, on arrête ?
Le format de l'hypermarché, moi, je ne considère pas qu'il est mort. Je ne veux pas vendre d'hypermarché, je ne veux pas en céder. Mais par contre, il faut le réformer. On voit bien qu'il est en difficulté dans beaucoup de pays, chez tous les acteurs. La réforme, ça veut dire bâtir un hypermarché pour le monde de demain. Ça ne peut plus être des grandes cathédrales où on trouve tout. Ça doit être plus précis en termes de services, répondre aux attentes des clients sur la qualité alimentaire, les circuits courts, les produits locaux. Bref, construire un modèle d'hypermarché pour le monde de demain, c'est ce qu'on est en train de mener avec toutes les équipes. C'est un formidable projet pour l'entreprise. Le format de l'hypermarché, ça a été un format gagnant pendant tant d'années. Il mérite d'être transformé, d'être rénové. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les équipes.
Mais de façon très concrète, ils seront quand même moins grands avec moins de références.
Ils seront moins grands. On annonce 400 000 m² de moins dans le monde. Il y aura moins de références. On s'y perdait au fond. Donc on a annoncé 15% de baisse des assortiments. Il y aura une place du non-alimentaire plus compactée. Par contre, l'alimentaire sera mis en majesté avec plus de produits frais, beaucoup plus de bio, beaucoup plus de circuits courts, plus de restauration aussi. Bref, ce qu'attendent les clients aujourd'hui de leurs grands magasins hypermarché.
Et avec plus de produits français, avec de meilleurs accords avec les producteurs, on les rémunère mieux ?
Avec beaucoup de produits français, on a annoncé ce matin, on investit aujourd'hui 1 milliard d'euros dans l'industrie, dans l'agriculture française. J'ai annoncé ce matin que 95% des fruits et légumes qu'on trouvait chez Carrefour, dans tous les magasins, hyper comme petit, comme proximité, devaient être d'origine française. C'est 50 millions de plus qu'on met dans l'agriculture française.
Justement, vous parlez de la proximité, on en voit quand même beaucoup déjà, des Carrefour Market et autres. Là, on va en voir encore plus. Il devait y en avoir 2000 d'ici à 2022. Vous allez beaucoup plus loin ?
Il devait y en avoir 2000 de plus, il y en aura 3000 de plus. Donc on ouvrira 3000 magasins de proximité d'ici à 2022. On croit à ce format-là, c'est un format gagnant qui épouse les modes de consommation. On veut y trouver du bio, donc on va développer nos magasins spécialistes bio. On veut y trouver du prêt à manger. Bref, on veut faire de la proximité un des cœurs de notre modèle de demain.
Avec aussi plus de drives et notamment des drives piétons. Vous étiez fait complètement devancer par Leclerc sur les drives. Là, vous dites que pour une fois, ça y est, vous êtes premier. Donc, vous y croyez à fond sur les drives piétons ?
Les drives piétons, on est très leader. On en a ouvert 50 en moins de quelques mois. Qu'est-ce que c'est le drive piéton pour les auditeurs d'Europe 1 ? C'est avoir accès à l'offre de l'hypermarché au pied de chez vous, au prix de l'hypermarché. C'est très intéressant. Ça complète très bien l'offre de proximité de nos magasins de proximité.
Justement, les négociations commerciales qui définissent les prix de ce que nous, consommateurs, on achète dans les magasins se terminent demain. Il y a comme d'habitude une rumeur qui dit que vous, Carrefour, comme les autres, vous êtes des grands méchants et que vous tordez le bras des producteurs et des industriels.
Non, on a passé des accords avec un certain nombre de producteurs agricoles, avec certaines filières, c'est le cas du lait, on a rehaussé le prix du lait. Après, vous savez, il y a d'un côté les producteurs agricoles, les PME avec lesquels on a un partenariat très soutenu, et puis il y a les grands acteurs mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Je négocie pas exactement de la même manière avec Pepsi-Cola ou Coca-Cola qui font 15 à 20% de marge au niveau mondial qu'avec les producteurs agricoles. Les négociations vont se terminer dans les prochains jours. J'espère qu'elles se termineront d'une manière positive pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire.
Dernière question. On a eu beaucoup de rumeurs comme quoi les prix devaient augmenter fortement du côté des hypermarchés à cause des états généraux de l'alimentation qui, pour faire simple, limitent la possibilité de faire des promotions. Les premiers retours que vous avez, est-ce que vous avez réussi à contenir cette hausse des prix ?
Oui, j'ai un de mes concurrents qui a beaucoup dit qu'il y aurait une hyperinflation, que ça allait être une catastrophe pour le pouvoir d'achat des ménages. Je ne le croyais pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On a fait notre travail, nous, chez Carrefour, pour baisser le prix des marques propres, pour offrir des mécanismes de promotion et de fidélité. Et les premiers éléments qu'on voit dans les différentes études, vous avez dû voir ça la semaine dernière, montrent une stabilité des prix. C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages, notamment des ménages français, qui est si important dans cette période.
Un grand merci à Alexandre Bompard d'avoir accepté ces quelques minutes sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le patron de Carrefour. Nous, on se retrouve demain, 22h20, toujours sur Europe 1.
À demain, évidemment. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Les écolos vont-ils enterrer la gauche ? Question à la une de Libération demain. Convaincu d'obtenir un bon score aux européennes de mai, Europe Écologie Les Verts refuse de jouer une nouvelle fois les supplétifs et se voit déjà remplacer la social-démocratie comme principale force progressiste. C'est le bras de fer ignoré des prochaines européennes, écrit Laurent Geoffrin. Macron contre Le Pen, Mélenchon contre le reste de la gauche, la droite classique contre l'extrême droite, pas du tout. Les écolos contre tous les autres et d'abord contre la gauche. Traditionnellement, conclut Laurent Geoffrin, la gauche était rose ou rouge, eh bien, elle sera verte. Assurance vie, la grogne monte chez les épargnants. Ça, c'est ce que nous disent les échos. L'inflation fait plonger dans le rouge les rendements des contrats en euros. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à un renforcement de la concurrence sur le marché. Bercy propose de renforcer la transparence. Le drapeau algérien est à la une du journal La Croix. Algérie, la révolte. Le mouvement populaire hostile à un cinquième mandat du président Bouteflika va connaître demain, puis dimanche, deux journées décisives. Algérie, la contestation s'intensifie contre le pouvoir, titre également Le Figaro. Le vent de fronde ne faiblit pas, au contraire. Mais alors que de nouvelles manifestations sont annoncées demain, les caciques du régime restent soudés derrière leur président malade. Voilà donc ce que vous pourrez retrouver demain dans vos kiosques. Et on repart tout de suite à Laval, rejoindre Stéphane Beignet qui suit pour nous ce match amical de foot féminin entre la France et l'Allemagne. On est à 99 jours du début du mondial, on le rappelle. Stéphane ?
Oui.
Ça donne quoi ?
Ah bien, toujours un but à zéro pour la formation allemande qui est en train de gérer vraiment son avance et même peut-être là une bonne occasion sur le côté droit. Attention, heureusement, eh bien, il y a eu une bonne interception de la joueuse de Diani qui a pu récupérer cette balle pour écarter le danger parce que là, il y avait un petit peu le feu dans la défense française qui se fait souvent piéger un petit peu bêtement avec des ballons qui sont perdus un peu facilement. Mais elles essaient quand même de revenir un peu dans cette partie avec, on le sent quand même, un gros potentiel. Et puis, il faut quand même signaler ce soir deux absentes de marque. Tout d'abord, Eugénie Le Sommer, 157 sélections dans cette équipe tricolore. Et puis également, Grietje Mbok-Bati. Alors, ça permet aussi de donner du temps de jeu à d'autres joueuses. Et puis, on le sait très bien, une phase de préparation, c'est aussi pour tester, faire tourner, affiner aussi des tactiques. Donc il ne faut peut-être pas prendre, même si le score en restait là, eh bien quelque chose de dramatique pour cette équipe française qui a encore du temps pour se préparer et qui veut vraiment, vraiment réussir son mondial. Cela démarrera le 7 juin prochain jusqu'au 7 juillet à travers l'Hexagone. Et bien sûr, on sera sur Europe 1 derrière cette équipe de France qui est menée pour l'instant encore au stade Francis Lebasserre à Laval sur le score de 1-0 par la formation allemande.
Bien sûr qu'on sera derrière les Bleus pour ce mondial. Merci beaucoup Stéphane Beignet en direct de Laval. Passez une excellente soirée à l'Écho d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle. Alors on va finir le mois de février ensemble ce soir.
Eh bien oui, avec plaisir.
On sera en mars tout à l'heure. Mais je dis un petit peu avant.
À tout à l'heure.